Vous écoutez RTL.
Merci à tous d'écouter RTL. Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Après 12 ans d'absence, Jean-Paul Rapneau est de retour derrière la caméra. Son nouveau film Belle Famille sort demain en salle. Les confidences d'un très grand du cinéma dans un instant avec Stéphane Boutsock. C'est un des succès de la rentrée théâtrale, Fleur de Cactus, au Théâtre Antoine à Paris. Catherine Fro et Michel Faux reprennent la pièce de Barillet et Grédy. C'est un triomphe chaque soir, nous dira Monique Younes, et nous vous offrirons des places au 3210 pour aller les applaudir. Jean-Michel Jarre publiera vendredi le premier volet d'un double album enregistré avec les meilleurs artistes de la scène électronique. Steven Bellery est allé à la rencontre du musicien chez lui, dans son studio de Bougival, dans les Yvelines. Et puis on n'oubliera pas les express de Laissez-vous tenter, servis cette semaine par Anthony Martin.
RTL Matin,
Laissez-vous tenter.
Parlons cinéma tout d'abord, avec un retour qui, j'en suis certain, fait plaisir à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Demain, au cinéma, va sortir Belle Famille, c'est le nouveau film de Jean-Paul Rapneau. Cela faisait 12 ans que le réalisateur des Mariés de l'an 2, du Sauvage ou de Cyrano de Bergerac était absent de nos écrans.
Oui, à 83 ans, vous allez l'entendre, il n'a rien perdu de son enthousiasme ni de sa passion pour le 7e art. 12 ans, en effet, se sont passés depuis Bon Voyage avec Isabelle Adjani en 2003.
Oui, le retour de Rapneau. Pourquoi 12 ans? Mais c'est parce que, entre-temps, il y a eu un film que j'ai longuement préparé, longuement écrit, qui devait se tourner en Asie centrale, qui était une comédie d'espionnage très, finalement trop cher pour être financé dans l'état actuel du cinéma dans ce pays. Et finalement, le film a été annulé quelques semaines avant le tournage. Donc ça a été un choc. Et pour moi, en tout cas, ça ne m'était jamais arrivé. Donc, je suis reparti sur une chose plus simple, qui est ce film Belle Famille. Bah oui, j'étais pas mort. La preuve.
Pas mort, mais touché par cette impossibilité de tourner. Bon Voyage, faut le dire, avait moyennement marché, et le milieu du cinéma étant ce qu'il est, bien financé. Un film signé Rapneau, malgré sa carrière et ses succès précédents, est soudain devenu compliqué. Le réalisateur se souvient de tout, mais n'a donc pas pour autant perdu l'envie de tourner.
Ah bah non. Mais il ne manquerait plus que ça. Mais ça a excité ma hargne. J'étais blessé par les réponses négatives que j'ai eues pour ce projet qui n'a jamais été réalisé. Et les mêmes groupes, enfin je dirais presque le même groupe, a dit non aussi à Belle Famille. On ne cite pas de nom, on ne cite pas de groupe. Enfin bon, bref, c'est comme ça pour tous les films. Hein. Le cinéma français a changé. Enfin, les films coûtent de plus en plus cher. Donc je ne dis pas de nom, mais je les ai en tête. Voilà.
Jean-Paul Rapneau a donc trouvé des producteurs qui ont cru en lui. Et Belle Famille, son 8e film sort demain parce qu'il tourne peu. Hein.
Oui, l'histoire d'un homme pressé, joué par Mathieu Amalric, qui vit à Shanghai et qui, lors d'une escale en France, apprend que sa maison de famille va être vendue. Il se rend sur place et cette balade va bouleverser son existence parce qu'il va découvrir des secrets, des non-dits et même des visages parfois inconnus de sa propre famille. Le film doit beaucoup à ses comédiens, Amalric donc, mais aussi Gilles Lelouch, Guillaume de Tonquédec, Karine Viard ou encore Nicole Garcia. Et même, allez, si j'ai quelques petites réserves, on s'en fout, j'avoue, je me suis laissé emporter par le savoir-faire de Rapneau, sa folie, sa poésie, et puis surtout cet amour des comédiens.
Mais c'est que je les aime. C'est encore pour moi une histoire de famille. Moi, j'ai toujours été amoureux des actrices que je filmais. On ne peut pas filmer sans amour. Et Gérard dans Cyrano de Bergerac, moi j'avais les larmes aux yeux quand il jouait, il n'y a pas à dire. Mais ils sentent ça. Ils ont besoin de notre amour. Et ça tombe bien avec moi.
Et puis, autre atout de Belle Famille, son portrait de la province, mot considéré aujourd'hui comme péjoratif, ringard même par certains, alors que c'est de là que viennent la majorité de ceux qui vivent à Paris, et habitent d'ailleurs beaucoup de ceux qui nous écoutent ce matin encore. Mais attention, pas une province caricaturée. Jean-Paul Rapneau y tenait beaucoup.
Oui, ça brasse beaucoup de choses. Il y a des souvenirs communs, quoi. On peut dire que c'est un peu la France de tout le monde. Moi, je regrette que beaucoup de films français soient tournés à Paris. Mais c'est la France profonde qui m'a intéressé là. Voilà. C'est cette province ancienne, on peut dire, plongée dans le grand bain de la mondialisation. Et il y a cette ville imaginaire qui s'appelle Ambray, mais il y a aussi Shanghai, il y a aussi Londres, et il y a aussi l'Afrique à la fin. Il n'y a pas de passéisme. Il y a pas. C'était mieux avant. Hein. C'est pas ce que raconte le film. Pour moi, c'est mieux maintenant. Enfin, c'est mieux. On traverse un moment difficile. Je pense à ce pays, mais il en sortira.
On prend beaucoup de plaisir, décidément, à réentendre Jean-Paul Rapneau. J'espère, Stéphane, qu'il ne faudra pas 12 autres années pour voir son prochain film.
Hein. Écoutez, apparemment, la suite est déjà en route.
Ah ben non, c'est-à-dire que mon âge ne me le permet plus. D'ailleurs, il y a déjà eu une idée en route, mais j'attends mercredi prochain que le film sorte pour pouvoir retourner dans la campagne où j'écris quand au début. Enfin, il y a une idée qu'on va développer avec mes amis.
Mercredi prochain, c'est donc demain la sortie de Belle Famille. Enfin, le nouveau Rapneau.
Le Sauvage, Les Mariés de Landau, ouais, Cyrano. Il nous a donné certaines de nos plus belles émotions au cinéma. Jean-Paul Rapneau, Belle Famille. On va aller scruter tout ça avec grand plaisir. Dans un instant, nous parlerons audience télévisée. Ce sera avec Isabelle Morini-Bosque. Ne nous quittez pas.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Alors, nous devisions gaiement sur le portrait de Serge Reggiani que nous avons regardé hier soir grâce à vous. Et maintenant, vous pouvez nous donner les audiences.
Eh bien, 15 000 téléspectateurs simplement d'écart entre Joséphine Ange Gardien sur TF1 leader avec 1 135 000, 5 135 000 téléspectateurs et 22% du public sur la Une. Et France 2 qui a seul 5 120 000 et près de 20% du public global sur France 2. En troisième position, Serge Reggiani, Ma Liberté, un peu en dessus de la moyenne de la case, 2 200 000 téléspectateurs environ et 9% du public sur France 3. Et alors, côté TNT, alors Under the Dome, définitivement, quand ça veut... Hop, 2 millions de téléspectateurs, c'est un peu faible pour un Spielberg. Et alors, côté TNT, c'est W9 qui est en tête avec Armageddon, 1 215 000 téléspectateurs.
Armageddon, vous dites-vous?
Oui, on dit comment?
Armageddon?
Armageddon, non?
De vélo.
C'est un peu comme Amidon.
Armageddon de vélo, évidemment.
Comme Amidon. Et ce soir, le pari de... il y a un vrai pari d'audience sur M6 avec Cauchemar chez les coiffeurs. C'est comme Cauchemar en cuisine, mais chez les coiffeurs. C'est pas tiré par les cheveux, mais la coiffure, jusqu'à présent, ça n'a jamais marché en télé. Alors, à suivre ce soir en Bretagne, entre Bigoudi et Bigouden.
Moi, Cauchemar chez les coiffeurs, ça peut me faire rire. Et puis, je sais pas si c'est une émission que regardera Stéphane Boutsou.
Non, moi, j'ai arrêté.
Voilà, ça ne m'intéresse plus.
Les Express élevés.
8h09, les Express avec vous Anthony Martin, bonjour.
Bonjour.
On démarre avec l'infatigable Jean d'Ormesson.
Oui, c'est une indiscrétion RTL signée Bernard Lehu. À 90 ans, l'académicien sera l'une des stars de la rentrée littéraire de janvier. Il publiera chez Gallimard un livre de souvenirs, Je dirais malgré tout que cette vie fut belle, un titre tiré d'un poème d'Aragon pour lequel évidemment Jean d'Ormesson a toujours clamé son admiration. Jean d'Ormesson qui n'avait pas publié chez Gallimard depuis 13 ans.
Après Stromae, alors non, attendez, il faut le faire par allez-y.
J'arrête.
Oh mais si,
je me retire.
Il n'est jamais trop tard pour cultiver le présentateur et accessoirement les auditeurs.
Après Stromae.
Voilà, alors merci. C'est au tour de Christine and the Queens de partir à la conquête de l'Amérique.
Oui, lundi prochain, la chanteuse nantaise entamera à Los Angeles une série de 15 concerts outre-Atlantique. Et la version américaine de son album Chaleur humaine sort vendredi aux États-Unis avec à l'intérieur des morceaux inédits. En voici un, cette nouvelle chanson de Christine and the Queens s'appelle Jonathan. Voilà une balade inédite signée Christine and the Queens, chanson écrite en hommage à l'artiste allemand Klaus Nomi. Dans l'immédiat, c'est donc pour les Américains, mais on ne sera pas en reste, hein, puisque les inédits de la chanteuse figureront dans la réédition française de son album, prévu pour le 6 novembre, Christine and the Queens, qui, confidence faite l'été dernier sur RTL, aurait rêvé d'écrire cette chanson.
Tonight, Phil Collins.
Bonne réponse. Figurez-vous que Phil Collins, chanteur aujourd'hui retraité, sera de retour l'année prochaine, mais en librairie. L'éditeur anglo-américain Penguin Random House a annoncé hier qu'après maintes sollicitations, le musicien avait enfin accepté d'écrire son autobiographie. Je suis prêt à me livrer sur ma vie en musique avec tous les hauts et les bas et à raconter l'histoire de mon point de vue en fin de compte, a déclaré Phil Collins. Son livre paraîtra en octobre 2016.
Il n'y a pas beaucoup de chanteurs qui ont réussi à faire chanter une batterie. Et puis c'est une tradition, chaque année le parrain du Téléthon visite le centre de recherche de l'Agence française contre les myopathies qui est basé à Évry.
Oui, et Marc Lavoine, le parrain de l'édition 2015, a donc passé une partie de sa journée hier à visiter les locaux du Généthon, ce laboratoire où travaillent les scientifiques. Il a suivi un cours intensif sur les cellules, l'ADN et les manipulations de gènes. À sa sortie, Marc Lavoine s'est dit transformé et prêt au combat.
On ne peut pas imaginer les choses. L'émotion d'être
plongée dans le corps d'une société entière de 2500 personnes qui réunissent espoir, expérience, exigence. C'est émouvant, donc ça nous enlève un peu de force. Et c'est tellement émouvant que ça nous redonne de l'énergie et que ça nous fait nous redresser sur nos valeurs et nos principes. Ça donne aussi l'idée que la France est un beau pays. Le plus beau visage de notre pays se mobilise chaque année. Je sais que c'est pas si facile. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent plus donner, qui sont au bout. Mais les gens donnent d'eux-mêmes. Et qui l'eût cru qu'on puisse dans notre pays être exemplaire sur ce point ?
Voilà Marc Lavoine au micro RTL de Laurent Marsic. À noter que le Téléthon aura lieu les 4 et 5 décembre prochains. Et pour une fois, je parle sous le contrôle d'Isabelle, le programme n'aura pas à faire face à l'élection de Miss France sur TF1 puisque la cérémonie a été décalée à fin décembre. Enfin, une info cinéma. Mm-hmm. Le scandale des moteurs diesel truqués du constructeur automobile Volkswagen va être adapté au grand écran à Hollywood dans un film produit par Leonardo DiCaprio, qui est connu pour son engagement dans les causes environnementales. Ce sera l'adaptation d'un livre qui n'est pas encore sorti.
Il n'y a pas de titre encore.
Il n'y a pas de titre encore.
Bah oui, mais C'est ça, Hollywood. Déjà
Les Express de Laissez-vous tenter étaient préparés pour nous aujourd'hui par Anthony Martin. Monique Younes, bonjour.
Oui, bonjour.
La pièce de Fleur de Cactus, écrite par Pierre Barillet. On va citer leur prénom parce qu'on ne le fait jamais habituellement, vous avez raison. Par Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy, et créée en 1964 par Sophie Desmarais, Jean Poiret et Jean Carmet, repousse 50 ans après sa création au Théâtre Antoine. À Paris.
Et c'est Catherine Froux qui reprend le rôle-titre avec pour partenaire Michel Faux, qui met également en scène cette comédie romantique, sentimentale, humaine et absurde. Car la vie est absurde, nous le savons tous. Fleur de Cactus, c'est l'histoire d'un dentiste volage. Julien, alias Michel Faux, qui ment comme un arracheur de dents. Il a la chance d'avoir une secrétaire parfaite qui semble ne pas avoir de vie en dehors de son travail.
Je lis beaucoup. Des livres de voyage, surtout et sur les bêtes. Peu de romans. Je n'aime guère les romans. Comme tout ce qui est romancé, d'ailleurs. Ouh, ça me tape sur les nerfs. Cinéma, théâtre, toutes ces choses qui ne vous arrivent jamais dans la vie.
Bah oui, bien sûr.
Et puis, quand viennent les vacances, alors là, c'est la grande évasion. L'Espagne, l'Italie, la Yougoslavie. Car l'été dernier, nous avons poussé jusqu'à la Grèce.
Ce n'est pas la porte à côté.
Oui, surtout en deux chevaux. Car j'ai fait tout ça en deux chevaux. Et avec maman et Frida.
Votre sœur qui habite Angoulême.
Non, ma vieille chienne coquette.
Catherine Froux est mademoiselle Vigneault dans la pièce. Elle connaît son dentiste de A à Z. En sautant quelques lettres, comme elle le dit joliment. Ses amours, ses emmerdes, elle en voit tous les jours. Et bien qu'elle en pince un peu pour son Julien, elle ne s'attendait pas à ce qu'un beau matin, il lui demande ceci.
Accepteriez-vous d'être ma femme ?
Moi, docteur ?
Pour un quart d'heure, 20 minutes,
hein. Je ne vous suis pas très bien.
Il s'agirait de jouer le rôle de ma femme, si vous préférez. Bon, je vais vous expliquer.
Oui, s'il vous plaît.
J'ai décidé de me marier et la jeune fille que je vais épouser me croit déjà mariée.
Comment ça ?
C'est moi qui l'ai prétendu.
Ah.
Oui, je sais, ça peut vous paraître peu élégant de ma part, mais je n'étais pas très sûr de mes sentiments ni des siens.
Et maintenant, vous l'êtes ?
Oh, absolument.
Alors avouez-lui la vérité, docteur, il comprendra certainement.
Mais vous savez comment sont les hommes, Yves ?
Non, je ne sais pas comment sont-ils.
Ben, je ne sais pas non plus, mais chez Barry et Grédy, ils sont comme ça, menteurs. Car c'est ce qui nous passionne le plus dans l'adultère, au fond. L'acte en lui-même n'a pas tellement d'importance, c'est même souvent ennuyeux à savoir. En revanche, les mensonges du mari, c'est là que la comédie commence et le talent. Petits, gros mensonges qui passent ou font semblant de passer. Ici, tout s'embrouille quand, après que Julien ait annoncé à sa maîtresse, Antonia, interprétée par Mathilde Bisson, qu'il allait divorcer pour l'épouser, celle-ci exige de rencontrer sa femme.
Je dis que ta femme est toujours amoureuse de toi.
Pardon, pardon, il doit y avoir un malentendu. J'exige que tu me rapportes mot pour mot ta conversation avec elle.
Ses silences, ses regards contredisaient ses paroles.
Ses silences, ses regards?
Tiens, par exemple, quand elle m'a parlé des sandwichs au poulet, l'amour qu'elle met dans tes sandwichs au poulet.
Mes sandwichs au poulet? Elle s'est vantée de ses sandwichs au poulet? Mais la prochaine fois que je la vois,
j'écrase
sur la gueule.
Il est excellent. Il faudrait donc que le dentiste invente de nouveaux mensonges pour convaincre Antonia que sa femme veut vraiment divorcer. Et voilà comment, dans cette pièce où personne n'aime mentir, tout le monde ment tout le temps. Il paraît que c'est un peu comme ça dans la vie, d'après Catherine Froux et Michel Faux.
L'homme idéal n'existe pas. À moins d'être très 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 amoureux, là, alors l'idéal apparaît.
mais c'est peut-être qu'une apparition.
On s'est tous retrouvés dans des situations comme ça, où on n'osait pas dire les choses, puis on se retrouve dans des impasses. Ça, c'est très humain, le mensonge. Et en même temps, c'est des gens qui jouent avec leurs sentiments, en fait, puisqu'ils trichent. Et en fait, à force de jouer avec leurs sentiments, ils finissent par se prendre au jeu et par créer des vrais sentiments, en fait.
Elle lui dit vivre, arracher quelques petits plaisirs à coups de mensonges et d'hypocrisie, si vous appelez ça vivre. En ce cas, oui, j'ai peur de vivre. C'est beau, il y a des grands sentiments dedans. Il y a beaucoup de farce aussi, il faut admettre. C'est d'un ordre poétique, ça me correspond. J'ai ma place là, je ne sais pas comment vous dire, mais je le savais.
Catherine Froé au top de sa forme, l'immense actrice est irrésistible dans ce rôle de femme coincée, généreuse, attendrissante, mais qui se révèle beaucoup plus vache qu'elle n'en a l'air et même libérée. Et oui, Tremblay, messieurs, Faux et Fro sont notamment entourés de Cyril Edelin dans le rôle du meilleur ami un peu envahissant et Marie-Hélène Lantini, patiente du dentiste, parfaitement extravagante.
Et comme Fleur de Cactus est un spectacle RTL, nous allons vous offrir des places pour voir Catherine Fro au Théâtre Antoine dans cette mise en scène de Michel Faux, si vous répondez à la question de Monique.
Quel est le métier de Michel Faux dans la pièce ?
Très bien, réponse au 32-10.
Et on précise, on rappelle que les deux, Michel Faux et Catherine Fro, sont toujours à l'affiche de Marguerite de Xavier Giannoli au cinéma, qui vient de passer les 800 000 entrées. C'est le gros succès français de la rentrée.
Information confirmée par Monsieur Boutsock dans un instant. On ira découvrir la musique que fait aujourd'hui Jean-Michel Jarre.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
T'es une musique à présent. Il a vendu 80 millions d'albums dans le monde à 67 ans. Il fait son grand retour. Jean-Michel Jarre publie vendredi Electronica, The Time Machine, le premier volet d'un double album enregistré avec plusieurs artistes. Steven Bellery, vous avez rencontré le musicien dans son studio de Bougival, dans les Yvelines, c'est-à-dire chez lui.
Et oui, une grande maison au bord de la Seine, dans la cave, des tapis au sol et des centaines de synthés dans les étagères. J'ai bien dit des centaines. Jean-Michel Jarre reçoit dans une pièce au mur noir, au fond, une console futuriste. C'est là qu'il a composé la plupart des morceaux de ce projet un petit peu fou, une trentaine de titres produits en collaboration avec d'autres musiciens. À chaque fois, il est allé à leur rencontre où il leur a ouvert la porte de son antre.
On est ici dans mon studio et dans un endroit qui ressemble d'une certaine manière à un atelier de peintre. Je veux dire par là que la musique électronique, c'est une activité de solitaire, un petit peu comme celle d'un peintre. Et qu'on a très peu l'occasion de se retrouver ensemble avec d'autres musiciens au départ d'un processus créatif. Du coup, de faire rentrer quelqu'un dans son studio, c'est un peu partager ses secrets, ses tocs, ses tics, ses points faibles. Ce projet-là a été tellement excitant que j'ai pas trop vu le temps passer. Et il n'y a pas pour moi de morceaux que je préfère, de morceaux secondaires, parce que chaque morceau est une aventure à cause de la personnalité des gens avec qui j'ai eu envie de travailler.
La voix de Pete Townshend, le leader des Who. Jean-Michel Jarre a travaillé pendant 4 ans sur ce double album. Il a personnellement invité le pianiste Lang Lang, le groupe R ou l'un des musiciens de Massive Attack. Un casting musicalement très varié pour un projet électro ambitieux. D'ailleurs, c'est quoi l'électro aujourd'hui ? J'ai posé la question à Jean-Michel Jarre.
La musique électronique aujourd'hui, elle est partout. La différence qu'il y a entre la musique électronique et le punk, le rock ou le hip-hop, c'est que c'est pas un genre de musique, c'est une manière de concevoir l'écriture musicale. Quand j'ai commencé à apprendre la musique avec Pierre Schaeffer, qui était le créateur de la musique concrète et le patron du groupe de recherche musicale en France, c'était le premier à dire la musique est pas seulement faite de notes et fondée sur le solfège, mais elle est faite de sons. Et que cette idée-là a fait son chemin et a changé la manière dont on considère la musique aujourd'hui. C'est comme faire de la cuisine, c'est de cuisiner des fréquences, des formes d'ondes, de manière au fond très tactile, très sensuelle, presque très sexuelle, qui est à l'opposé de l'idée robotique et froide qu'on pourrait plaquer sur les idées reçues à propos de la technologie et de la musique électronique.
Jean-Michel Jarre a publié son premier album en 1972 et j'imagine que son métier a changé en 4 décennies, Steven.
Eh bien non, le musicien jure que non.
Je pense que le métier de création n'a pas changé depuis 5000 ans. C'est les outils qu'on utilise qui évoluent. Et en même temps, dicte les styles. C'est parce qu'on a inventé le piano que Chopin a pu faire des concertos. C'est parce qu'on a inventé le 78 tours un jour qu'Elvis Presley a fait des chansons de 3 minutes et qu'RTL passe des singles. C'est parce que les synthés ont existé que je suis là devant votre micro. Et donc, on s'est dit, tiens, on va commencer l'album avec une boucle rythmique, comme à l'époque de la bande magnétique, des ciseaux et du scotch pour coller les éléments rythmiques les uns derrière les autres et en faire une boucle physique. Et puis, pour passer ensuite au premier synthé teaser analogique, puis au sampler, puis au gros synthé numérique, et puis le dernier son du morceau est fait avec un iPad. Je pense que la musique électronique devient la musique classique d'aujourd'hui. Elle a peut-être la responsabilité aussi de redéfinir cette poésie du futur ou pour les futures générations.
c'est la chanson Time Machine, morceau d'ouverture qui donne son nom au projet. Donc il y a donc une boucle qu'il a fait avec ses ciseaux et un bout de scotch. J'avais pas du tout envie de me prouver quoi que ce soit, m'a juré Jean-Michel Jarre. Il avait simplement un désir de partage, de rencontre avec la jeune génération, notamment des musiciens qui le citent souvent comme un modèle.
C'est quelque chose qui me touche bien sûr, et en même temps j'ai envie immédiatement de dire à ces artistes, avec pour certains avec lesquels j'ai travaillé dans cet album, qui sont une source d'inspiration constante pour moi. Et je pense que dans la création, on est tous des éponges, on s'inspire, on emprunte, on vole. C'est aussi comme ça que les choses fonctionnent. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance, moi, de commencer la musique électronique à un moment où il n'y avait pas de référence, c'est-à-dire d'ouvrir la porte sur des territoires vierges. Et c'est un luxe extraordinaire pour un artiste de pouvoir ouvrir un champ de possible comme ça, avec toute l'innocence et l'espoir que ça Charlie.
Electronica One, The Time Machine, le nouvel album de Jean-Michel Jarre sort vendredi. Le deuxième volume est prévu, lui, pour le printemps. Le musicien prépare une nouvelle tournée en France. Pas de concert géant de prévu, vous savez que c'est sa spécialité, mais je lui ai demandé s'il avait encore des rêves de concert géant. Il en a deux, jouer à Ayers Rock en Australie et en Islande.
Je connais peu d'artistes qui parlent avec autant d'intelligence de leur métier, c'était vraiment passionnant. Non, mais qu'on soit sensible ou pas à cet univers musical, c'était vraiment une très belle rencontre signée Stephen Bellery. Et il est 9h26, le temps file vite. Dans quelques instants, vous saurez si vous avez gagné des places pour aller voir Catherine Fraud au Théâtre Antoine dans Fleurs de Cactus. Réponse qui vous sera donnée par Mademoiselle Monique Younes.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Nous vous offrons donc des places pour aller voir Fleurs de Cactus, spectacle RTL au Théâtre Antoine. La question qui vous a été posée, c'est quel est le métier de Michel Faux, donc partenaire de Catherine Fraud.
Non.
Oh là là, dans la pièce.
Non, on a un dentiste merveilleux.
Ah oui.
Qui nous fait pas mal.
On a un dentiste merveilleux qui ne fait jamais mal.
Voilà.
Vous ferez passer éventuellement enfin,
Non, c'est personnel. C'est un dentiste, ça ne se partage pas systématiquement. Voilà. J'ai accepté de le partager avec Mademoiselle Younes, mais nous en resterons là.
Vous écoutez RTL.